Vous vous souvenez, les cours de dimanche passé avec Timothée Frey, on a vu trois choses qu'on avait vues. Mais on est unis avec Jésus-Christ, on est justifié, puis on est racheté. C'est ça les trois choses qu'on a vues. Puis il nous a donné même une définition sur ce qu'est être justifié. Puis il disait « maître du nombre des justes ». Je ne suis pas juste. Le Seigneur dit « bon, maintenant, par l'œuvre de Jésus-Christ, je te ramène dans le groupe des justes. » Un juste, c'est quelqu'un qui est déclaré innocent, qui est déclaré sans faute. On ne comprend pas, en tout cas, je ne comprends pas la dimension de cette déclaration de la parole de Dieu lui-même. Mais le Seigneur dit que je suis justifié. Le Seigneur dit que je suis justifié, je suis innocenté de mes fautes, de mes péchés. C'est comme Dieu nous voit à travers le sang de Jésus-Christ et il me voit quasiment comme Jésus-Christ lui-même, sans péché. Parce que n'oubliez pas que la Bible déclare que le péché fait une barrière entre Dieu et nous. Pour ça, l'importance que quand on pêche et on est très conscient de nos péchés, on doit demander pardon pour renouveler, pour revenir, mieux dit, à la communion avec Dieu. Et le roi David, il priait, pardonne même ceux qui sont cachés de ma mémoire. Parce que parfois, on est tellement méchant qu'on a tendance à oublier les choses qui ne sont pas bonnes. Puis, si on nous demande, toujours, quand j'ai passé une couple d'entrevues de travail, c'est quoi vos qualités? Et on n'a pas trop de problèmes pour énumérer nos qualités. C'est quoi vos défauts? C'est quoi mon défaut? On commence à réfléchir un peu plus. Mais nous avons des défauts, vraiment. Et sinon, demandez à ma femme. On va sortir une grosse liste. Mais en tout cas, c'est ça qu'on avait vu avec Timothée Frey. Je suis justifié, je suis uni avec Christ et je suis racheté par le Seigneur. Racheté, ça veut dire quoi? Acheter, c'est une chose, non? Racheter, c'est une autre chose. C'est comme acheter à nouveau, non? De nouveau. Parce que, comme on a vu dans mon cours, vous vous souvenez, je dis, Adam et Ève étaient créés avec ce que les théologiens disent, la sanctification positive, parce que lui ne connaissait pas encore le péché. Alors, le péché sur la terre, il n'existait pas. C'était juste dans le ciel que s'est passé l'événement, la révolte de Satan contre Dieu. Et le péché, c'est s'origine au ciel. C'est comme très complexe, hein? Mais c'est dans le ciel que le péché s'est produit et pas sur la terre. Alors, Adam et Ève ne connaissaient pas encore, n'étaient pas conscients de c'est quoi un péché, c'est quoi une faute, c'est quoi désobéir à Dieu. Et c'est Satan qui l'a induit en cette faute-là. Et l'homme, à cause de ses faiblesses, parce qu'il a été créé dans la sanctification positive, mais pas parfait, dans le sens que Dieu est parfait. Alors, le Satan est venu, il a séduit la femme. Et les hommes, comme on est obéisants, on a obéi nos femmes. Et Adam a obéi sa femme, puis il a péché aussi. Et puis, tous les problèmes s'est développés dans la terre. Aujourd'hui, on fait le cours 3, mon identité en Christ, puis on va voir encore trois choses. Que je suis un membre du corps de Christ. On va voir ça, c'est mieux. Peut-être avec la... Vous n'allez pas voir clairement, là. Juste si vous vous tassez ici. Non, ils sont déjà installés. C'est là, elles ne bougent pas. Alors, on va voir, je disais que Dieu suit, et vous aussi, si vous êtes chrétien, un membre du corps de Christ, je suis un amant du corps de Christ, et je suis un saint dans le corps de Christ. Et nous allons, je voudrais que, parce que je n'ai pas mis, c'était un passage trop long, alors je veux le lire, le passage de 1 Corinthiens, je veux dire 12, du verset 13 au 27. Il dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait lui? S'il était tout oui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait... Maintenant, donc, il a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Alors, c'est très clairement, et la parole dit que vous êtes, on est un membre. Je suis un membre du corps de Christ. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait discuter de ces passages-là, très, très intéressants. Mais vous voyez, le pied, si le pied disait, parce que je ne suis pas la main, je ne suis pas du corps. Non. Hein? Alors maintenant, j'ai une question. Quelle partie du corps de Christ suis-je? Quelle partie du corps de Christ êtes-vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Et ça, c'est relié. Quand on parle qu'on est membre du corps de Christ, si vous voyez, je fais le lien presque automatiquement avec les dons. Quand on parle de membres, quand on parle, par exemple, les pieds, ça sert à quoi les pieds? À se mettre debout, à marcher. À quoi ça sert les mains? À prendre, à faire des signes, à plein de choses. Les yeux, ça sert à quoi? À voir. Alors, ils ont une fonction. Le seul membre du corps que même la science n'a pas à la misère, c'est l'appendice. Hein? À savoir à quoi ça sert, l'appendice.
Prendre des vacances à l'hôpital.
Voilà. Mais chaque membre, chaque partie du corps a une fonction spécifique, bien déterminée. Le Seigneur a fait toutes les choses d'une façon sage pour que le corps fonctionne comme il faut. Alors, il compare, la parole de Dieu compare les chrétiens comme une partie du corps mystique de Christ. Alors, on est tous membres du corps de Christ. Alors, quelle partie je suis? Quel membre je suis? Alors, c'est là que je fais le lien avec les dons spirituels. Parce qu'on fonctionne plus efficacement. Et je dis plus efficacement, ça ne veut pas dire que si je n'exerce pas les dons que le Seigneur m'a donnés, je ne contribue pas à l'œuvre, mais je suis plus efficace quand j'exerce le don que le Seigneur m'a donné pour lui servir. Parce que la parole déclare qu'il nous a donné à tous, au moins un don. Paul disait qu'il avait plusieurs dons, même le don des langues, que c'est un autre thème, mais lui, il disait qu'il a été béni avec plusieurs dons. Qui donne les dons?
Le
Saint-Esprit, Dieu. Alors, pourquoi c'est très, très important de définir, de savoir quelle partie du corps je suis ou quel don que le Seigneur m'a donné pour que je puisse fonctionner dans le corps de Christ? Parce que voilà, je cherche à être efficace dans le corps de Christ. Hein? Je cherche à développer un ministère dont le Seigneur va m'utiliser avec une plus grande bénédiction, édification pour les frères et sœurs. Alors, parce que moi, parfois, c'est un thème peut-être qu'on ne réfléchit pas trop. Hein. Je ne sais pas combien d'entre vous pourraient me dire d'une façon claire, mon don, c'est tel don, et j'essaie de servir dans cette place, dans cette don que le Seigneur m'a donné. Là, si on voyait, on a déjà, je pense, fait des études sur les dons. Si on voyait tous les passages qui parlent des dons, on voyait que le Saint-Esprit donne de la sagesse, quoi d'autre, le don de l'évangélisation, de service, le don de l'enseignement, le don du pastorat, c'est un don.
Libéralité.
Alors, plein de dons. Et nous avons au moins un de ces dons-là, au moins un chacun de nous. Mais il faut, alors, si vous n'êtes pas sûr c'est quoi le don, vous pouvez prier le Seigneur. Commencez d'aujourd'hui et dire, Seigneur, je veux servir dans ton œuvre. C'est quoi le don que tu m'as donné pour servir efficacement? Est-ce que je suis enseignant? Est-ce que c'est pour prêcher? Est-ce que c'est pour servir? Est-ce que c'est pour donner? Le don de libéralité, c'est un des dons les moins dites que les gens possèdent. C'est quoi le don de libéralité? Le don de donner. Hein? Parce qu'on a par nature, c'est comme si on est égoïste. Et c'est difficile de donner. Mais je répète toujours, quand on était dans l'église Lucy Verdad, il y avait un sœur salvadorien, d'origine salvadorienne. Elle travaillait avec son mari, il travaillait dans une manufacture à salaire minimum. Ce n'était pas une sœur qui avait beaucoup d'argent. Elle avait pris le ministère personnel parce que l'église n'a pas donné un titre comme notre sœur, c'est quoi son nom? Dina, elle s'appelle Dina. Et ma sœur Dina, elle est maintenant investie du ministère, de visiter tous les frères de l'église. Personne ne lui a dit ça. Elle a pris comme ministère personnel de visiter les membres de l'église. Même avec des températures comme ça, c'était pas étrange que n'importe à quelle heure, hein, parce qu'elle n'appelait pas pour faire un rendez-vous, elle arrivait comme ça. Puis elle avait toujours quelque chose à donner. Elle n'arrivait jamais seule. Elle avait toujours, s'il y avait des enfants, elle arrivait avec du lait. S'il y avait, selon ce que le Seigneur lui disait, parce que c'est le Seigneur qui l'a guidée, parce que même elle a apporté une fois à ma femme, parce que ma femme avait une très, très forte grippe, et la toux, surtout la toux qui était, vous savez, cette toux qui vient de la poitrine, donc qui fait mal, même à écouter tousser, c'est vraiment mal. Puis on lui avait dit que le navet était bon pour ça, à ma femme, que le navet fait une sorte de thé de navet, et le bois, que ça calme pas mal la toux. Puis ma femme est allée pour chercher et elle n'a pas trouvé dans le supermarché qu'elle est allée. Puis alors elle était comme ça. Puis la sœur Dina arrive ce soir pour visiter avec un navet. C'est vraiment des choses qu'on pense, ah, c'est juste le hasard. Mais je pense que le Seigneur guidait ma soeur. Puis elle était toujours dans la joie. Hein? Et sauf que là, il fallait attendre une quinzaine de minutes parce qu'elle prenait, elle mettait un tuque, elle mettait un gros foulard. Elle était bien, bien habillée pour l'hiver. Juste pour déshabiller, elle prenait quelques minutes. Mais elle était comme ça. Don de libéralité. Je ne sais pas si elle était consciente du don, mais on le voyait en elle. Et c'était clair. Puis, je crois qu'ici, il y a aussi des frères et des sœurs comme ça. Parfois, on ne l'identifie pas, mais on a le don. Mais tant mieux si on est conscient du don. Quelle partie du corps je suis? Comme ça, je suis dirigé par le Seigneur pour exercer ce ministère-là en fonction de mon don. Alors, maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. C'est ça que dit 1 Corinthiens 12, 18. C'est Dieu qui nous a placés, chacun des membres. Paul dit, il paraît comme si c'est une contradiction, parce que Paul dit, procurez-vous les dons, les meilleurs dons, mais parlant des langues et tout, si vous voyez 1 Corinthiens 12, 13, 12, 14 surtout, parce que le 13 c'est l'amour, mais le 1 Corinthiens 12, 13, il parle des dons et surtout le conflit des langues de l'époque, de cette église-là en particulier. Mais il dit mais cherchez les dons les meilleurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça alors? Ben, c'est tout simplement que je peux penser que j'ai un don. Paul, qu'est-ce que Paul est en train de dire? C'est prier le Seigneur pour qu'il définisse c'est quoi vraiment le don. Parce que le don, ce n'est pas moi qui décide quel don je veux avoir, c'est le Seigneur qui me donne, qui le donne. Mais je peux prier pour avoir un certain don. Ce n'est pas un péché. Seigneur, je voudrais, par exemple, je ne sais pas, aide-moi à savoir, identifier si mon don, c'est l'évangélisation, par exemple. Je veux être certain, parce que je veux m'amener vers ce ministère-là, ou l'enseignement, ou la prédication, ou la libéralité, ou le don de service. Alors, voyez-vous, on peut le faire, mais en vérité, qui va donner le don? C'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui va le mettre, il va me révéler. C'est quoi le don qu'il me donne, qu'il m'équipe pour servir d'une meilleure façon dans l'Église? Alors, c'est ça, quelle partie du corps je suis? Si je connais qui suis-je, quel corps, quelle partie du corps, si je connais ma place dans le corps de Christ et en conséquence ma fonction, alors suis-je en train d'accomplir ce que Dieu attend de moi? Ça, c'est notre question. Si j'ai identifié le don du Seigneur, maintenant je suis conscient, par exemple, que le Seigneur m'a donné le don de service, par exemple. Et on m'appelle, le pasteur m'appelle pour me dire, ou les comités.
Les rideaux.
Voilà, installer les rideaux. Ou on m'appelle, mon frère, on a pensé à toi pour te donner tel ministère dans le service de l'Église. Et je dis non, ben, je ne peux pas, je n'ai pas de temps, j'ai 3 enfants, ma femme est trop exigeante, plein de choses. Oui, c'est ça. C'est exactement le fait de ce que la parole me dit, d'intérêt, le talent que Dieu a donné. Vous vous souvenez la parabole des talents, non? Celui que le Seigneur a donné un, à l'autre il a donné deux. Puis celui qui a reçu, tous les deux ont reçu le talent du Seigneur. Un a dit, non, mon maître est trop dur. Alors je veux l'intérêt pour lui retourner son talent quand il revient me demander. Mais l'autre a pensé, non, je vais l'investir parce que ça va me donner au moins des intérêts. Non? Je vais le mettre à la banque. Puis quand le Seigneur revient, il dit, OK, donne-moi compte des talents que je vous ai donnés. Et qu'est-ce que... Il y en a un qui a donné au moins les intérêts de la banque. Il a gagné. Mais celui qui a intérêt son talent, il a pris le talent puis il lui a retourné au Seigneur. Il a dit, qu'est-ce que tu as fait de ton talent? Et c'est une figure exactement de ce que le Seigneur va nous demander à nous autres, parce que nous allons comparaître devant le tribunal de Christ. Et ça, on l'ignore souvent, on ne fait pas attention de ça. Mais nous allons passer devant le tribunal de Christ, nous les chrétiens. Pas pour le salut, parce qu'on est sauvés, mais pour donner, rendre compte de ce qu'on a fait pour sa gloire. C'est dans quoi on a investi nos talents, nos dons, pour lui servir. Parce qu'on est sauvé pour servir, mes frères. Il y a des chrétiens, malheureusement, qui ne comprennent pas ça. Mais on a été sauvé pour servir le Seigneur. La première chose, et parfois il y a des frères et des sœurs qui sont comme, ils sentent comme que c'est quelque chose, ce frère-là, il est en train de mal enseigner. Quand je dis, c'est quoi la première chose pour laquelle le Seigneur a racheté et a formé l'Église? C'est quoi la première chose pour laquelle Dieu a créé l'homme? Et quand on parle de l'Église, on a souvent très, très dans la langue de dire pour évangéliser le monde. Non. La première chose pour laquelle Dieu a racheté l'Église, c'est pour lui glorifier. Ça, c'est la première chose. Pour être pour sa gloire. Et après ça, ça vient l'évangélisation. Comme une deuxième responsabilité que Dieu nous donne en tant qu'Église. Alors la première chose, c'est glorifier le Seigneur. Il m'a racheté pour lui glorifier. Comment je glorifie Dieu? En étant, en soyant obéissant. Si je suis obéissant, ça vient toutes les choses avec. Le Seigneur veut que nous exercions chacun notre part dans le corps de Christ. Si les pieds commencent à manquer, ben, comme disait Dom, le corps va être comme dérangé à un moment donné, quelque part. Mais si on fonctionne tous comme il faut, les deux pieds comme il faut, les genoux, les bras, ben, le corps est bien. Le corps est en santé, le corps marche, le corps est actif, le corps est bon pour faire n'importe quelle fonction qu'on lui demande. C'est pareil dans le corps de Christ, pareil dans l'Église. Alors, mais il y a une autre question. Si je n'accomplis pas la tâche que Dieu me demande de faire, qu'est-ce que j'aurai comme récompense? La parole de Dieu nous répond. Jean 15, 2. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout serment qui porte de fruits, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Alors, ce passage nous montre trois choses importantes à accomplir. Une chose, demeurer en Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, parlant du cèpe et le sarment, il a dit, vous ne pouvez rien si vous ne restez pas en Christ. Okay? La première chose, c'est demeurer en Christ. Être toujours en Christ. Et c'est quoi? Et qu'est-ce que vous comprenez par demeurer en Christ? C'est quoi? Le fait de demeurer en Christ. Agir selon sa parole, obéir, marcher, rester en communion, et marcher dans la sainteté, et obéir, comme disait mon frère, au Seigneur, la parole de Dieu. Une autre chose, c'est être purifié, accepter avec joie le fait d'être émondé. C'est quoi l'émondé? S'il y a des agriculteurs ici ou des jardiniers, ils savent mieux, oui. Je ne connais pas du tout l'agriculture. Puis une année, je parlais avec Joël parce que à chaque fois qu'on va chez Joël, on voit le beau jardin qu'il a en arrière, là, des tomates, des concombres, la vigne aussi. Et puis moi, je dis, je vais planter cet été, je vais planter en arrière de chez nous, dans la cour. Je vais planter 5 plantes de tomates. Pour avoir de bonnes tomates. Puis, mais ça n'a pas vraiment marché. Et puis, j'ai parlé avec Joël. Et Joël m'a dit, parce qu'il faut que tu nettoies, que tu émondes. Il m'a même montré, il m'a dit, regarde cette partie-là, il faut que tu les enlèves, parce que ça paraît comme si c'est une tomate qui va éclore, ou quoi, je ne sais pas comment dire. Pousser, oui. Puis, mais c'est pas vrai, c'est quelque chose qui nuit plutôt. La plante, le tomate de pousser.
Alors, je... un gourmand.
Pardon?
On appelle ça un gourmand.
Un gourmand, OK, voilà. Voyons.
C'est...
Ah oui?
Ah, oh.
Oh, OK. Voyez-vous, j'apprends une nouvelle chose, ça s'appelle un gourmand parce qu'elle va prendre toutes les bonnes choses que la plante a besoin. Alors, voyez-vous, ça c'est émondé. Aussi, les fleurs, je suppose que les jardiniers, ils vont émonder pour que les fleurs, les roses sortent mieux, plus grands, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une partie à enlever. Je ne sais pas si pour la plante est douloureux, parce que les plantes sont des êtres vivants. Je ne sais pas, c'est quoi l'action. Mais je suppose qu'il faut arracher quelque chose de la plante. Hein. À un certain moment, si on pensait... Ça doit faire mal, mais le Seigneur utilise la figure d'émondé pour nous. Alors, c'est quoi le fait que le Seigneur va émonder notre vie? C'est pour ça que je mets entre parenthèses, accepter avec joie le fait d'être émondé. Le Seigneur va nous... Ben, il y a deux choses dans la vie du chrétien. Il y a la souffrance dans laquelle nous tombons pour nos mauvaises décisions, puis il y a les épreuves que le Seigneur donne pour nous purifier, nous émonder. C'est pas parce que nécessairement j'ai fait une faute, mais le Seigneur est en train de me former. Il est en train de m'émonder pour que je puisse porter du fruit. Comme la plante, la tomate, non? et qu'il faut enlever les gourmands pour que les tomates soient bien beaux, bien juteux, roux. Voilà, c'est ça. Et au fur et à mesure que le Seigneur va émonder notre vie, le fruit sera meilleur ou plus nombreux. Alors, mais vous vous souvenez quand le Seigneur y est allé chercher des figues dans le figuier, il n'a pas trouvé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a maudit le figuier. Hein? C'est dur comme enseignement. Le Seigneur ne nous maudit pas, nous, si nous sommes vraiment ses enfants. Mais il va, selon Jean 15:2, qu'est-ce qu'il va faire? Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'on comprend pour le fait que le Seigneur va me retrancher? Ben, je crois personnellement que le Seigneur peut m'enlever. J'ai déjà dit, je pense, avec vous, j'ai partagé l'histoire d'un pasteur dans mon pays d'origine qui, après d'être pasteur, puis il est tombé dans le... Il était alcoolique, le Seigneur l'a sorti de l'alcool. Il a reçu l'appel pour devenir pasteur. Il était pasteur dans une église pendant un certain temps. Puis pour une faiblesse, je ne sais pas comment, je ne connais pas la vie de pasteur, je connais le fait général, là. Il est revenu et puis est tombé dans l'alcool, puis il marchait comme ça. Et puis le monde le reconnaissait parce que c'était dans une ville que tout le monde disait, oh, regardez le pasteur, regardez le pasteur. Les frères venaient pour lui reprendre. Il persistait dans le péché, dans le péché, dans le péché. Et tout à coup, le monsieur, une fois, il était avec quelqu'un, puis ils ont eu un accident de voiture, puis le monsieur est décédé. Pas l'autre, mais le monsieur est décédé, le pasteur. Puis le monde disait. À l'époque, j'ai connu l'histoire, je n'étais pas chrétien, parce que le Seigneur m'a racheté ici, au Canada. Dans mon pays d'origine, je n'étais pas chrétien. Mais j'ai entendu quand même parler, parce que mon frère était déjà chrétien là-bas. Puis nous sommes racontés. Le frère disait, le Seigneur l'a retranché, l'a enlevé, l'a pris, parce que lui, il n'était pas obéissant. Il dénigrait le nom de l'Évangile. Et il ne glorifie pas le nom du Seigneur. Alors le Seigneur n'a pas voulu comprendre, alors le Seigneur l'a pris. Peut-être c'est ça, de ça que parle Jean. Il sera retranché du corps. Et alors la seule explication que je trouve, c'est que le Seigneur m'enlève, m'amène avec lui. Au lieu que je reste pour ne rien faire ici sur la terre, et bien, au contraire, je vais plutôt mettre... comment je pourrais dire, salir le nom de l'Évangile et de Dieu, alors il va m'amener avec lui, parce que je suis vraiment un fils, je suis vraiment un enfant de Dieu, alors il va me retrancher du cèpe. Et puis le troisième aspect, c'est obéir pour ne pas être retranché, ça veut dire, c'est ça que le Seigneur veut. Alors, mais j'ai aussi, parlant de la façon dont on fait l'évangélisation, il y a des groupes de chrétiens qui viennent, ils disent aux personnes, venez au Seigneur et votre vie sera la vie en rose. Est-ce que vous avez déjà entendu ça, des chrétiens évangélisés comme ça? Venez, acceptez le Seigneur et tous vos problèmes seront finis. Waouh, je dis, quel gros mensonge. Moi, je dirais plutôt le contraire. Je ne veux pas dire au monde le contraire, c'est juste une idée que je vous donne. Mais regardez, quand j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, j'ai commencé une lutte, une bataille contre le péché et mes mauvaises habitudes. Ce n'était pas la vie en rose. Mais avec le Seigneur, c'est différent. On peut aller de l'avant parce que c'est lui qui m'amène. C'est lui qui a mis le Saint-Esprit pour avoir le courage, pour avoir la force d'avancer. Par mes moyens, je ne pouvais pas. J'aurais déjà laissé depuis longtemps peut-être l'Évangile. Mais ce n'est pas moi, ce n'est pas de ma force. Je dois me mettre, ma volonté doit être soumise au Seigneur, de lui obéir, pour que le Seigneur m'amène selon sa volonté, selon où est-ce qu'il veut m'amener. Mais ce n'est pas facile. Qui a dit que la vie chrétienne est facile? Surtout quand on veut obéir le Seigneur. Plus vous décidez d'obéir le Seigneur, plus vous allez voir que ce n'est pas facile. Parce qu'on va voir, on va confronter nos faiblesses. Tout le péché que le monde nous offre sera plus évident. Et nos fautes, mes faiblesses seront plus évidentes pour moi. Et plus on grandit dans la foi. C'est tout à gagner. Parce qu'on va, premièrement, on obéit le Seigneur, on glorifie le nom du Seigneur, on a déjà un grand bénéfice dans nos vies. Et puis on va avancer dans la maturité chrétienne. On est plus capable d'aider mes frères et sœurs qui sont dans les besoins. Et je suis béni dans tous les sens. Oui, il y a des luttes. Oui, il y a des épreuves. Oui, il y a des choses qui ne seront pas agréables selon notre perception des choses agréables. Mais je suis gagnant dans tous les sens avec le Seigneur et quand je suis en train d'obéir le Seigneur. Qu'en est-il dans le corps de Christ quand certains membres paraissent avoir un plus grand rôle que d'autres? 1 Corinthiens 12, 24b, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Qu'est-ce qu'on comprend par là? Que Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Moi, je pense que il y a une chose très importante à comprendre, c'est que dans le corps du Seigneur, on est tous égaux. On est tous égaux et il n'y a pas vraiment... Dieu va donner... Celui qui se considère moins que d'autres, parce que j'ai déjà parlé, pas ici dans cette église, dans mon ancienne église, j'ai parlé avec des gens qui étaient vraiment des gens très simples, qui n'avaient pas une grande scolarité, qui me disaient, oh, parce que moi je ne suis pas important, le pasteur, oui, ou celui qui donne le cours, ou celui qui dirige, les ministères qu'on voit plus publics, on les voit comme ça. Mais est-ce que vraiment il est moins important pour Dieu que le pasteur ou que celui qui dirige ou que celui qui enseigne ou celui qui fait des choses qu'on voit? Non. Pour Dieu, chaque ministère, il y a la même valeur. Si on l'exerce comme il faut, en obéissance, avec intégrité, si on s'efforce pour bien faire notre ministère, soit que je... enlève la neige, comme mon frère faisait ce matin, soit que je viens balayer l'église ou que je passe pour prêcher une fois, est-ce que Dieu va... Ah non, celui qui prêche, il y a une valeur plus grande que celui qui passe le balai dans le temple. Non. C'est le cas de chaque personne que Dieu voit et personne ne recevra plus que d'autres par rapport au ministère qu'il s'exerce, mais plutôt avec l'attitude dans le corps qu'on exerce. Oui, Anne, notre pasteur, parce que, bibliquement parlant, un pasteur ne cesse jamais d'être pasteur. Hein? Même si dans nos sociétés modernes, le pasteur prend la retraite, mais pour Dieu, dans la Bible, je vois qu'un pasteur ne cesse jamais d'être pasteur, parce que c'est un appel que Dieu a fait. Et M. Frey a montré, comme disait Mireille, plus que ça, bien d'autres choses qui est un pasteur qui sert. Et il ne pense pas. Il voit le besoin, puis il fonce sur ça. René, comme ça. Gloire à Dieu pour lui. Puis pour les pasteurs de l'Église, je pense qu'ils sont tous vraiment des pasteurs qui servent, qui sont serviables. Alors, c'est ça. Je pense que ce verset nous parle de cette façon-là. Dieu a disposé... Oui, Fred. Oui, bon. Alors, c'est ça. Je pense que... Ce verset pourrait nous indiquer la fonction de ce que nous faisons dans le corps, puis le ministère que nous effectuons pour Dieu. Dieu ne fait pas de différence. Et il va évaluer et il va avoir la même rétribution de Dieu. Celui qui fait un ministère honorable et celui qui n'est pas, selon nous, honorable, Dieu va donner la même chose, c'est-à-dire il va donner la même rétribution à chacun. Deuxième point, je suis un amant du corps de Christ. Mon rôle envers les autres, c'est de les aimer. C'est ça que Dieu nous demande. Si on voit dans 1 Corinthiens 12, il nous dit que c'est pour éviter les divisions dans le corps, pour commencer. Dans 1 Corinthiens 12, 25, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres, en traitant tous les membres impartialement. Ça, c'est moi qui ai écrit ça. mais afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Alors, pour éviter, je dois aimer le corps de Christ. Si nous voyons directement dans le verset que j'écris là, afin qu'il n'y ait pas de division. C'est quoi la division? Pourquoi ça vient la division dans les églises? Pourquoi parfois il y a des frères qui commencent à provoquer à une division dans les églises? Ça arrive, hein? Grâce à Dieu, Dieu nous garde, notre église est en harmonie. Et depuis qu'on est là, ça fait 18 ans déjà, non? 18 ans qu'on est à l'église. L'église, le Seigneur le garde en communion, on est unis. Est-ce que parce qu'on pense la même chose nous tous? Parce qu'on n'est pas des gens compliqués? Waouh, je suis compliqué. Je suis très compliqué. J'ai un mauvais caractère. C'est vrai, c'est vrai.
Oui.
Voilà, c'est l'amour. Je dois aimer le corps de Christ. Je suis parti du corps de Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas son corps? Avec la taille parfaite qu'on a. Il y en a d'autres qui sont plus anormales. Mais on s'aime. Et ça, c'est biblique. Comment je peux aimer quelqu'un si je ne m'aime pas moi-même? Si je ne m'accepte pas moi-même comme je suis? Hein? Je dois être content et remercier le Seigneur. Comment on est? On est pas trop grand, on est moins grand, on n'est pas trop gros, on est moins gros. On est blonde, on n'est pas blonde. On est blanc, on est plus foncé, moins foncé. Entre les deux, lait au chocolat. Mais on doit être content, c'est le Seigneur. Dieu est un Dieu de diversité. C'est ça qui est vraiment spécial. Imaginez-vous si Dieu avait fait toute la race humaine blanche. Ici, mon frère dit, je serais plate, tout le monde blanc. Ou tout le monde noir. Juste des gens noirs partout, ou des manches au chocolat, comme moi. Non, Dieu a fait une diversité, c'est merveilleux. Dieu est un Dieu de diversité, Dieu aime les choses différentes. Alors nous devons nous aimer différents comme nous sommes. Différents caractères, différentes couleurs de peau, différents... tout différent, oui, donc. Si nous tous obéissons au Seigneur de nous aimer les uns les autres, c'est la solution. Oui, et comme disait Michael, l'amour que nous devons pratiquer dans l'Église, ce n'est pas l'idée d'amour que dans le monde on explique, on pratique. Parce que l'amour, n'oubliez pas, c'est une décision. Hein? L'amour, ce n'est pas quelque chose comme que je suis dans l'air pour penser que j'aime. Je flotte. Non, ce n'est pas ça l'amour. L'amour, c'est mais j'aime ma femme malgré... Non, est-ce que ce n'est pas vrai? Est-ce que nos époux, nos épouses n'ont pas de défauts? Que parfois, selon notre état d'âme aussi, nous fait réagir différemment? Oui. Est-ce que dans l'Église, ça ne se manifeste pas? Je sais que moi, nous tous avons des affinités avec certaines personnes qu'on n'a pas de problème. Ça clique comme ça, puis la relation, l'amitié vient comme automatique. Mais il y a d'autres que non. Il y a d'autres frères que... Est-ce que je ne dois pas les aimer? C'est quoi, qu'est-ce que doit être mon attitude envers ces frères qui sont aux soeurs, qui sont moins affins, qui ont moins d'affinité avec eux? Selon la parole de Dieu, c'est plutôt avec eux que je dois m'efforcer davantage. C'est pour ces personnes-là que je dois prier davantage. C'est à ces personnes-là, si je veux vraiment pratiquer l'amour que Dieu nous demande, c'est avec ces personnes-là que je dois m'approcher davantage. Hein? On aime bien d'être avec nous, c'est pas mauvais, c'est bien. Ceux que nous aimons, nos amis, ceux qui nous, notre cercle proche. Mais faisons un peu plus un effort un peu plus grand. Invitons une fois, prendre un café, celui qui peut-être, je pense que je ne suis pas trop sympathique pour lui. Et parfois, je ressens la même chose envers lui. Alors, et on va glorifier le Seigneur. Et on est en train d'obéir, pas seulement d'obéir, mais on est en train de construire, d'unir, d'être le chaînon pour que la chaîne soit forte. Et si nous pensons à ça, ce sont des petits détails. Hein. Et vous savez quoi? Satan prend avantage à cause des petits détails qu'on laisse de côté. Donc, à un moment donné, je ne suis pas dans la mesure de donner mon aide immédiatement. Mais je dois, selon l'attitude que je prends, comment est-ce que je veux parler à la personne qui demande une aide, ça va faire une différence. Et si je suis vraiment sincère, si je suis vraiment avec un cœur disposé à aider, peut-être, comme je dis, je ne vais pas le faire tout de suite, mais je peux le faire après, je peux expliquer. Maintenant, je ne suis pas dans la mesure, mais écoute, mon frère, si on va peut-être chercher quelqu'un qui peut le faire, ou je pourrais le faire après. Il y a des différentes choses. Mireille, tu voulais dire? Alors, juste parce que le temps est avancé, et puis on est avec la crainte de Dieu, il y a d'autres aspects qu'on doit mettre en pratique, comme par exemple le fait, peut-être, quand on s'efforce pour accepter quelqu'un qui n'est pas le plus sympathique, selon ma perception, de me renier à moi-même. Hein? Je ne cherche pas à me plaire, mais Seigneur, je vais aller un peu plus loin parce que peut-être que je ne suis pas sympathique pour lui, mais moi, je vais aider moi à ne pas avoir la même attitude. Puis je vais m'approcher sincèrement avec un cœur disposé d'avoir une relation d'amitié avec cette personne-là. Peut-être que je ne vais pas arriver avec la même profondeur que je peux avoir l'amitié avec d'autres, mais peut-être que je vais au moins avoir une relation plus harmonieuse avec cette personne-là. Et parfois, c'est juste aussi les préjugés que nous avons. Hein. Parfois, c'est juste parce que peut-être il n'est pas trop souriant et moi, il ne m'aime pas. Plein de choses que nous devons réviser dans nos vies pour l'interrelation que nous avons entre frères et sœurs. On avance. Entre-temps, les membres impartialement. Je dois être impartial avec mes frères. Jacques 2.1 dit, « Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. » Ça fait une division. Quand je fais des favoritismes vers un groupe ou vers quelqu'un, puis je déplace, je mets de côté un autre groupe ou quelqu'un d'autre. Alors, il faut, ça c'est un péché. Le favoritisme, c'est un péché devant Dieu. Je dois être compatissant avec tous les membres. C'est ça que dit la parole. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Dans les mauvais temps, dans les bons temps, je suis là avec mes frères. Par exemple, aller dans un hôpital, rendre une visite, c'est comme un petit peu pénible pour nous. Hein. Ne disons pas aller à la prison. Grâce à Dieu, je pense qu'aucun des membres de notre église est emprisonné. Mais malade parfois, souvent. Et combien de frères, de sœurs qui, si vous demandez à quelqu'un malade, est-ce qu'il y a beaucoup de frères, de sœurs qui sont venus te voir? Grâce à Dieu, il y a toujours quelqu'un qui va aller, mais ce n'est pas la plupart. Hein, ce n'est pas la plupart, c'est la minorité. Mais dans ces situations-là, c'est qu'on montre notre amour, qu'on montre qu'on est un en Christ, qu'on est les uns les autres, qu'on prie les uns les autres, qu'on prend soin les uns les autres. Alors, et puis pour finir, même si le temps est très brièvement, je suis un saint. Je suis un saint parce que la parole du Seigneur le déclare. 1 Corinthiens 1:2. Acceptons-nous facilement cette identification? Pourquoi? Et on a discuté la dernière fois sur le fait de dire je suis saint, parce que je suis un Christ identifié dans sa mort, je suis un saint, je suis identifié à Christ dans son ensevelissement et je suis identifié à Christ dans sa résurrection. Mais on avait déjà expliqué un petit peu ça. Parce que je suis saint, cela veut dire que je suis sans péché? Non. Qu'est-ce que dit la Bible du roi David? On n'a pas le temps de lire dans 1 Samuel. Mais 13-14 dit, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. C'est Samuel qui parle à Saül. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait demandé. Était-il David un pécheur, oui ou non? Oui, un grand pécheur, David. Et lui, le reconnaît. Ça, c'est le moment quand 1 Samuel 13, Saül fait la première, disons, la première grande faute devant Dieu, parce qu'il est, le Philistin l'entoure, il est là, il a peur parce qu'ils sont en guerre. Puis Samuel lui a dit, je vais arriver dans 7 jours pour te visiter, pour clamer l'Éternel et puis partager qu'est-ce que l'Éternel allait révéler pour qu'il aille en bataille contre les Philistins. Samuel, il vient pas, 6 jours, le 7e jour arrive et Samuel n'est pas là. Alors il dit, bon, emportez-moi l'Holocauste, je veux faire une offrande à Dieu pour que Dieu se communique ou me communique qu'est-ce que je dois faire. Parce que le peuple commençait à s'en aller, parce qu'il y avait peur. L'armée philistienne était là. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, il, dans la peur qu'il de rester tout seul, il fait l'Holocauste. À qui avait Dieu demandé d'offrir l'Holocauste? C'est pas au roi. Le roi le faisait quand il n'y avait pas de prophète. Mais là, Samuel avait dit, dans 7 jours, je serai là. Et justement, après que Saül a désobéi, puis il a offert l'Holocauste, Samuel arrive. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait le mal, tu as désobéi ce que Dieu a dit. Alors, ça, c'est la première faute. Après, il y a une faute un peu plus grave qu'il a fait. Et alors, mais Dieu dit, Samuel vient lui dire, Dieu s'est procuré un homme selon son cœur. Parlant de qui? Parlant de David. Est-ce que David n'a pas péché? Oui. Dans 2 Samuel 12, 13, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Alors David lui-même se reconnaît pécheur. Est-ce qu'on n'est pas des pécheurs, non? Oui, on est des pécheurs. On pêche malheureusement. Et si, dans Romains 7, 20, Paul dit, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. On est des pécheurs par nature. Et même si parfois je ne veux pas pécher, je tombe malgré mon désir de ne pas désobéir le Seigneur, je veux tomber dans le péché. Mais pour dire que je suis saint, le problème n'est pas que nous ne sommes pas des saints, c'est que nous ne vivons pas comme des saints. Et c'est pour ça qu'on est gêné de dire je suis saint en Jésus-Christ. Mais si nous vivons dans la sanctification, on aura un peu plus, pas que je veux proclamer partout, hein, je suis saint, non. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Mais au moins, je n'aurais pas peur de dire, si quelqu'un s'approche, comme j'ai expliqué l'autre fois, si quelqu'un s'approche, est-ce que les chrétiens sont saints? J'aurais l'opportunité d'expliquer pourquoi la Bible me dit que je suis un saint. Et ce n'est pas nécessairement parce que je fais toutes les choses parfaites ou parce que je vis une vie sans faute, mais j'aurai plus peut-être l'opportunité même d'évangéliser quelqu'un qui s'approche à me demander ou à poser cette question-là. Alors, question, comment Dieu reste-t-il juste tout en justifiant des pécheurs? C'est une bonne question. Hein? Comment est-ce que Dieu reste juste en justifiant des pécheurs? Parce que la Bible déclare que s'il y a un coupable, il faut le condamner. C'est ça la justice, non? Dans la cour, si on vient prouver que la personne est coupable, qu'est-ce qu'il fait les juges? Bravo, on prie pour ce monsieur-là parce qu'il a été déclaré coupable. Non, il va donner un jugement, il va donner la prison, et là où il y a la peine capitale, il va faire couper la tête. Alors, c'est ça la justice. Alors, comment est-ce que Dieu reste juste en justifiant les pécheurs? Je vous laisse de devoir à la maison pour que vous réfléchissiez. Non, je pense qu'un des aspects, peut-être il y a d'autres aspects qu'on pourrait discuter, mais juste pour le dire, un des aspects, c'est que Dieu a déclaré, par exemple, qu'en Adam, tout le monde devient pécheur. Hein? Adam, c'est la tête fédérale de l'humanité. Alors, tout le monde participe de son péché, naturellement. Alors c'est la même chose, la justice de Dieu vient. Si on restait comme ça, Dieu serait injuste. Parce que pour le péché d'Adam, tout le monde est devenu pécheur. Mais là, la justice de Dieu se manifeste, que maintenant, par la justice et la perfection de son Fils, tout ce qui vient s'approprier de ce sacrifice, il est déclaré juste. Alors Dieu reste juste, en justifiant. De la même façon que l'homme a été condamné pour le péché d'un homme, là, pour la sanctification, pour la perfection de son Fils Jésus-Christ, tout le monde est rendu maintenant juste. Et Dieu est juste. Alors, pour finir, ne perdons pas notre identité. On parle d'identité, mon identité en Christ. Je ne suis plus ni américain, ni européen, ni asiatique, ni africain, ni ingénieur, ni médecin, ni professeur, mais je suis un chrétien, surtout. Hein? C'est ça qui prévaut maintenant dans ma vie, chrétien, chrétienne. Alors, si je suis un membre du corps de Christ, si je suis un amant du corps de Christ, si je suis un saint dans le corps de Christ, vivons donc dans la sainteté de Christ. C'est ça qui m'identifie à Christ. Nous allons prier.